Oui, la game du 10 juillet, il est midi 13 minutes. Je vous l'ai souvent mentionné, je suis un Montréalais pur et dur, Montréalais d'origine. J'ai grandi à Ville-Saint-Laurent et mon papa travaillait à l'époque dans le domaine des finances et avait accès à des billets pour le Canadien au mythique Forum de Montréal. Puis ça, Jake, t'es trop jeune pour avoir connu ça, là, mais ouais. Le Forum, il n'y avait aucun endroit comme le Forum de Montréal. Fait que pour moi, là, un samedi soir pour un match à 8 heures, d'aller avec mon papa au Forum, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis je rêvais un jour d'avoir accès à ça, puis d'en faire partie. Et à la saison 2005-2006, je suis rentré pour la première fois dans le vestiaire du Canadien comme journaliste sportif. Puis je me rappellerai toujours de ce moment-là. Tu sais, le vestiaire du Centre Bell à cette époque-là ressemblait à celui du Forum. Là. Tu sais, il était encore petit. Puis t'avais les photos des grands joueurs de l'histoire du Canadien. Là. Dorel Joliat en passant par Maurice Richard, Jean Béliveau. Puis tu sais, la fameuse phrase là, nos bras meurtris vous tendent le flambeau. À vous toujours de le porter bien haut. J'étais tellement fier de rentrer dans le vestiaire du Canadien. Et celui qui m'a donné l'accès à ce vestiaire, c'est mon ami Dominique Saillant, que je m'en vais rejoindre sans plus tarder au bout du fil. Salut Dominique!
Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Est-ce que la réception est bonne?
Super bonne, je t'entends super.
Merci.
Bien. Yes!
Merci à toi.
Hey, je suis content de te jaser, Dom, après toutes ces années.
Mais merci à toi de l'invitation, c'est très flatteur.
Écoute, je le mentionnais avant la pause, t'as un long parcours dans le hockey professionnel. T'as goûté aux Sénateurs, t'as goûté aux Canadiens, t'as goûté aux Olympiques. Écoute, c'est pas rien, Dom, c'est presque 35 ans dans le hockey.
Effectivement. Ça a commencé en 92.
Avec les Sénateurs à Ottawa.
Avec les Sénateurs à Ottawa. Si je fais un survol rapide, Jean-Philippe, puis un peu particulier, un peu typique comme parcours, si je peux me permettre. Évidemment, comme jeune Québécois, j'ai grandi dans la région de Québec. Alors moi, la Ligue nationale, c'était un rêve, comme un paquet de jeunes Québécois, Québécoises. J'ai quitté Québec pour aller à l'Université d'Ottawa en 1988. Et moi, j'étais gardien de but. On s'entend, je portais les jambières. Je n'ai pas l'audace de dire que je suis un joueur professionnel comme Jean-Philippe Bertrand.
On est loin de là.
On est loin de là, mais il reste que j'étais gardien de but et lors de mon entrée à l'Université d'Ottawa en 88-89, on s'entend que ça date de pas mal longtemps, j'ai décidé d'aller au camp d'entraînement des JGs comme gardien. Alors, deux entraînements, je me suis rendu compte évidemment qu'il y avait beaucoup de talent à l'époque et... La deuxième journée, après deux entraînements sur glace, la troisième journée, c'est un entraînement hors glace. Je sais pas si tu es familier un peu avec le campus de l'Université d'Ottawa. Il fallait courir jusqu'au Parkland Dome et revenir ensuite à la course.
Qui est quand même une popée trotte, là.
Quand même une popée trotte. Ça allait quand même bien physiquement, mais quand tu cours, tu as le temps de réfléchir beaucoup. Hein. Et je me suis dit, bon, c'est clair que je ferais pas les JGs comme joueur, comme gardien. Alors, j'ai pris ma douche en résidence, je me suis dirigé directement au complexe du centre sportif et je suis allé voir un individu qui est aujourd'hui mon ami, qui était à l'époque directeur des sports à l'Université d'Ottawa, Jean-François Leboeuf. Et j'ai dit, écoute, j'ai fait deux entraînements avec les JGs, c'est clair, je ne ferai pas l'équipe comme gardien, as-tu de la place pour un relationniste? Il m'a dit oui, alors j'ai été embauché sur le champ par les JGs. De là a commencé une carrière, ensuite l'avenue des Sénateurs d'Ottawa, comme tu as mentionné un petit peu en introduction. Merci pour la introduction. En 92, évidemment, j'étais à Ottawa quand Ottawa a eu la franchise. Alors, ça a commencé avec les Sénateurs plus le CH et plus Hockey Canada. Alors, oui, fier de mon parcours. Et tout ça pour dire qu'il faut croire à ses rêves. Et dans mon cas, ben, je rêvais à la Ligue nationale depuis tout jeune âge. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le talent pour le faire comme athlète. On ne peut pas se rendre dans les grandes ligues à un autre niveau.
Ouais, c'est un beau message. Moi aussi, c'est comme ça que je suis devenu journaliste sportif. Pas assez bon pour jouer dans NHL. Fait que je me suis rendu comme journaliste sportif. Parle-moi de tes années à Ottawa. Ça a dû être... Premièrement, c'est ta première vraie job ou deuxième vraie job comme
Absolument.
Relationniste. Mais dans un club qui part de toute pièce, ça a dû être toute une aventure, ça?
Écoute, c'était vraiment une aventure. J'étais chanceux. Je faisais de la télé communautaire et de la radio communautaire. Évidemment, Ottawa a une franchise. Je suis allé passer l'entrevue. À l'époque, c'est un Québécois qui était le directeur des coms. Son nom te dit peut-être quelque chose, Laurent Benoît, qui est toujours dans la région d'Ottawa. Je suis passé l'entrevue. J'ai eu la job comme adjoint aux communications. Écoute, on remonte à loin, là. Alain Vigneault était entraîneur adjoint. Rick Bowness est entraîneur-chef. On parle de l'année de l'expansion des Peter Sederkovitz puis des Neil Brady et des Sylvain Turgeon et de ce monde. Alors que l'équipe, à moins que je me trompe, la première année, Jean-Philippe a gagné 10 matchs, mais en fin de saison, bien entendu, et une victoire à l'étranger. Et devine, cette victoire-là est arrivée en avril.
Alors, incroyable.
Si on se met dans un contexte d'une saison de hockey, ce club-là d'expansion, évidemment, c'est pas les expansions qu'on retrouve aujourd'hui, c'était très... Écoute, à l'époque, c'était pas des grands clubs d'expansion. Alors... c'était pas facile de naviguer là-dedans, mais la clientèle d'Ottawa, le monde médiatique à l'époque, donnait la chance aux Sénateurs. C'était tout quand même qu'une arrivée, un club d'hockey de la Ligue nationale à Ottawa. Les entraînements étaient à Kanata. Les bureaux étaient à Nepean, pour les gens qui sont un petit peu familiers avec la région, c'est entre le centre-ville et Kanata.
C'est loin, ça aussi, là.
Et oui, et les matchs étaient au centre civique. Alors, un jour de match, effectivement, il y avait beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de choses à trimballer. Ça a été des belles années. C'est là que j'ai commencé. Évidemment, l'équipe ne gagnait pas, mais je pense qu'à quelque part, la population ontarienne et québécoise, l'Est ontarien, était très ouverte à avoir une équipe. Évidemment, les gens embarquaient.
Et étais-tu encore pour les Sénateurs lors de la sélection en 93 d'Alexandre Degg, qui a été pas mal votre premier gros coup, là, tu sais?
Absolument. J'étais là en 93. Le repêchage était à Québec. On avait préparé tout un dossier de presse pour Alexandre Degg. Je m'en souviens très bien à l'époque. Et puis, effectivement, le repêchage sans air climatisé à Québec, la venue d'Alexandre Degg, qui était quand même un gros coup pour les gens d'Ottawa, un gros coup de marketing, on s'entend à l'époque, de la part de la direction. J'ai beaucoup de respect pour Alexandre. Alexandre a quand même joué pas mal de matchs dans la Ligue nationale avec certaines équipes. Le
613 pour être total, pour être exact.
Voilà,
c'est incroyable,
même,
c'est incroyable, hein, ben oui.
Ouais. Et on le revoit maintenant à la télé. Alors oui, c'est devenu un ami au fil des ans. Alors oui, j'étais là pour Alexandre Degg et d'autres premiers choix. J'étais là 4 ans avant de faire le saut à Montréal avec l'équipe de Bernard Brisset, Donald Beauchamp, mais ça, c'était en 96.
C'est ça, 96. Donc, as-tu connu l'ancien Forum ou toi, t'es arrivé pour les débuts du Centre Molson?
Je suis arrivé pour les débuts du Centre Molson. J'avais eu la chance, grâce à Bernard et Donald Beauchamp, qui formaient l'équipe des communications à l'époque, de travailler pour une série quart de finale à l'époque des Canadiens contre les Islanders au Forum. Mais ça, c'était à l'époque où j'étais avec les Sénateurs. On m'avait comme prêté pour une série. Mais mon arrivée officielle à Montréal, c'est en 96. C'est bien après le transfert du Forum au Centre Molson.
Et t'es arrivé dans des moments pas faciles, en plus, parce que là, c'était l'époque Régent Houle, qui n'a pas été l'époque la plus fructueuse pour le club de hockey canadien.
Effectivement, Régent Houle était le directeur général, Mario Tremblay était l'entraîneur. Et là, j'ai fait le calcul, il n'y a pas trop longtemps, le nombre de propriétaire, président, directeur général et entraîneur. Il y en a un paquet, on en a vécu pas mal, l'équipe des coms, pendant toutes ces années-là. C'est certain que ces années-là n'étaient pas nécessairement faciles, mais en termes de relations de presse, et je sais que tu vas sûrement aborder le sujet à un moment donné, on parle de relationnisme, je t'écoutais en introduction. C'est un drôle de terme, Jean-Philippe, parce que je trouve que c'est un peu biaisé. Toute cette terminologie-là, à un moment donné, longtemps, souvent dans ma carrière, les gens me disaient « Ouais, mais qu'est-ce que ça fait un relationniste? » Tu l'as très bien expliqué tantôt. On est le trait d'union, finalement, entre l'équipe et les médias. Et une chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on fait du « servicing ». Je m'excuse le terme anglais, mais c'est un service à la clientèle. On est là pour servir le groupe médiatique. Et Dieu, on le sait qu'à Montréal, bien, évidemment, il y a beaucoup de gens qui couvrent le hockey, qui couvrent le Canadien, entre autres. Alors, c'est un terme biaisé, relationniste, mais j'aime mieux utiliser responsable des relations de presse et effectivement, on fait la liaison entre l'équipe et les journalistes. Alors oui, ça a pas été facile au début, il y a eu des années un petit peu plus difficiles. Par contre, il y a eu des beaux moments et puis j'en retire de bons souvenirs, c'est évident.
Ben c'est sûr que l'arrivée de George Gillette au début au tournant des années 2000, puis Pierre Boivin, puis là, le Canadien commençait à être un peu plus excitant, puis là, le Centre Bell commençait à être un peu plus rempli, puis là, il y avait José Théodore qui avait gagné le Vézina, puis le Hart.
Voilà.
T'as aussi connu la suite plus le fun aussi, là.
Absolument. Il y a des super beaux moments. Écoute, je te cacherai pas qu'un des moments les plus heureux de ma carrière, c'est forcément la médaille d'or en 2014, parce que le Canadien, grâce à la direction de l'époque, m'avait prêté à Hockey Canada pour être responsable des communications avec André Brin à l'époque. Alors, on a gagné l'or à Sochi, fier de ça. Le club avait d'ailleurs fait une célébration sur la patinoire après au Centre Bell. Je veux dire, c'est des moments qu'on peut pas oublier. Par contre, bon, le club a pas, le Canadien n'a pas gagné la Coupe pendant mon séjour à Montréal. Mais le printemps 2010, on s'entend que les trois rondes de série, le printemps à Lac, l'ambiance des partisans, les joueurs le sentent, la direction le sent, les partisans vibrent, et on en a encore eu la preuve l'an passé à Montréal. Mais le staff aussi, les employés, le personnel, tout le monde embarque pas mal là-dedans. On se donne beaucoup, mais ça vaut le coup. Alors oui, il y a eu des moments, effectivement, comme en série, qui vont demeurer évidemment des éléments marquants.
Parce que tu parles du staff, tu fais vraiment partie de l'équipe, là, tu sais, t'es une partie intégrante de l'équipe, tu voyages dans l'avion avec le club, t'es à l'hôtel avec le club, t'es au restaurant avec le club, tu peux pas faire plus partie du club que ça, là.
Effectivement, on est les membres des relations de presse. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a toujours une personne du groupe qui voyage avec l'équipe. Dans le cas présent, ben c'est soit Chantal, Charles, Guillaume ou Timothée, le groupe de Chantal qui fait du bon travail avec le Canadien. Alors oui, on est toujours présent avec l'équipe. Certains clubs, les gens de communication vont se rapporter directement à la direction, et puis la plupart des équipes, les gens de communication se rapportent au directeur général, c'est-à-dire les opérations hockey. Faut quand même faire une distinction, Jean-Philippe, dans le sens que les joueurs, ce sont les joueurs. La direction, c'est la direction. Les opérations hockey font leurs choses. Et nous, ben, on navigue à travers tout ça pour s'assurer de donner le meilleur service possible. Je reviens là-dessus, puis s'assurer que les intérêts de l'organisation sont bien respectés. Je me souviens d'une phrase que je pense Donald m'avait dit à l'époque quand j'étais rentré chez le Canadien. Un gars de com dans une équipe sportive, si ça peut faire son travail en marchant entre deux murs, puis qu'à la fin de la journée, on ne l'a pas vu, la job est faite, c'est une qualité, tu comprends?
Ouais.
On essaie d'être le plus possible dans l'ombre, même si parfois il y a un rôle de porte-parole. Fait que oui, c'est de travailler dans l'ombre, comme tu l'as dit, mais ce sont des belles carrières. Le Canadien, c'est une grande organisation. Puis je n'ai pas fait la liste de tous les événements qu'on a dû gérer au fil des années. J'en retiens quelques-uns, bons et moins bons.
Le centenaire, ça avait été quelque chose, ça?
Le centenaire, c'est assez spécial. Comme je te dis, la médaille d'or à Sochi, le printemps 2010. Si je peux me permettre un moment assez particulier, si tu m'ouvres la porte aussi, parce que c'est jamais évident, évidemment, de faire des relations de presse quand c'est des situations un petit peu moins heureuses. Je me souviens très bien du décès de Maurice Richard qu'on avait dû gérer comme organisation parce que la famille voulait que le Canadien s'en occupe. Et à l'époque, il y avait des gens chez Evenco qui faisaient un travail extraordinaire pour gérer ça. Sylvie Lambert, dans notre groupe de communication, qui prenait le dossier de A à Z. Alors, le décès de Maurice, ça a été gros parce que forcément, on se doit d'être impliqué dans l'annonce et dans la préparation de tout ça.
Ouais.
Mais un élément en particulier, Jean-Philippe, et je vais tout le temps me souvenir, c'était le 3 décembre 2014, à moins que je ne me trompe, le 2 ou le 3 décembre. Le décès de Jean Béliveau, si je peux me permettre de le raconter.
Ben oui, on a tout notre temps, Dom. Bon. Sens-toi pas pressé, puis s'il faut aller à la pause puis revenir après, on va le faire, inquiète-toi pas.
Bien apprécié, merci de me donner l'opportunité. Situation bien particulière, M. Béliveau qui décède. On est au Minnesota avec l'équipe, et puis évidemment, le bruit commençait à courir, évidemment, sur la place publique. Et évidemment, c'est pas rien, le décès de M. Béliveau. Régent Hall était au courant, puis on se devait de l'annoncer, et souviens-toi, 2014, c'est certain qu'il y avait des réseaux sociaux, Jean-Philippe, et on était pratiquement obligés d'annoncer sur Twitter, à l'époque, qui est devenue la plateforme X, le décès de Jean Béliveau, parce qu'il y avait certaines personnes qui commençaient déjà à être au courant. Et Bertrand Raymond, pour ne pas le nommer, savait très bien que M. Béliveau était décédé, et par respect pour la famille, en aucun temps, M. Bertrand Raymond avait dit « je vais sortir le scoop ». Si on peut permettre l'expression.
Oui, il avait attendu.
Il avait attendu, puis il avait tout le respect pour la famille. Alors, on devait de le faire. Mais pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, pour moi, faire stand sur Twitter pour annoncer le décès de Jean Béliveau, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma tête. On n'a pas eu le choix de le faire de cette façon-là, mais un homme comme M. Béliveau annoncé un décès sur les réseaux sociaux, il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait « It's not the way to do it », tu comprends? Mais ouais, finalement, on est obligé de le faire. Fait que, je vais toujours me souvenir de ce moment-là. Il y avait un décalage horaire aussi, mais c'est s'assurer que tous les gens en place ont le message, la ligne de communication est la même. Et à la fin de la journée, tu es obligé d'annoncer ce genre de choses-là. Il y a trop de conséquences quand ça sort sur la place publique.
Et tu sais, tu as apporté la précision, Dominique, sur le terme relationniste. Là, tu aimais mieux le terme préposé aux communications ou responsable des communications. Puis, tu sais, on s'est côtoyé pas mal. J'ai toujours trouvé que tu avais un boulot pas facile parce que tu étais entre l'arbre puis l'écorce. Les médias, puis surtout à Montréal, surtout dans un marché comme Montréal, on en veut du Canadien, puis on en veut des entrevues avec des joueurs du Canadien, puis c'est tout toi qui reçois les demandes. Puis en même temps, les joueurs, ben ont leur vie, puis ont leur entraînement, puis ils ont leur responsabilité, puis leur préparation. Fait que t'étais tout le temps tiraillé entre les deux. Combien de demandes tu pouvais recevoir par jour pour le fun, pour une entrevue avec un joueur, puis un ci, puis un ça?
Durant la saison de hockey, c'est drôle que tu poses la question parce que la couverture médiatique du Canadien, on s'entend pour une période de 8 mois, là, la saison comme entraînement, saison et série au besoin. Écoute, il y a entre 25 et 30 journalistes qui couvrent l'équipe sur une base quotidienne. Fait qu'en partant, ça fait beaucoup de monde dans le vestiaire. Tu l'as vécu, on l'a vécu. La télévision est présente, comme dans plusieurs marchés canadiens. Tout le monde veut un petit peu sa part du gâteau. Alors, l'accès quotidien, ça se gère quand même très bien parce que les joueurs sont disponibles. Le coach parle pratiquement tous les jours, les directeurs généraux à l'occasion. Alors ça se gère bien, même si ça peut devenir parfois lourd pour certaines personnes. Il faut pas oublier que les réglementations de la Ligue nationale, c'est t'ouvres le vestiaire le matin du match. Les détenteurs de droits parlent au coach ou à certains joueurs avant les matchs et t'ouvres ton vestiaire après les matchs. Il n'y a pas un autre sport professionnel, à ce que je sache, qui rend ses joueurs et ses dirigeants trois fois par jour. Ceci étant dit, c'est la Ligue qui gère ça. Alors, ça se gère bien. Ce qui arrive aussi, c'est que tu as des demandes individuelles. Tu as des détenteurs de droits, tu as tes propres réseaux, plateformes, médias sociaux, marketing, qui veulent aussi une partie du joueur. C'était les demandes qui étaient un petit peu plus difficiles à gérer en raison de la lourdeur de la visibilité quotidienne. Et ça, si j'avais à refaire un peu, je pense que le Cube le fait quand même très bien depuis quelques années. Je te donne un exemple, Jean-Philippe, les shows d'été. Les shows culturels, tout le monde en parle de ce monde. On essayait du mieux qu'on pouvait d'avoir des dirigeants à ces événements-là ou des joueurs l'été. Sauf qu'à un moment donné, les joueurs sont pas là, il y a peut-être un petit peu moins de joueurs locaux. Alors, ce créneau-là, ces demandes-là individuelles pour des shows ou des émissions autres que le hockey, ça devenait un petit peu plus difficile à dire oui. Ouais. Forcément, on était un peu notre groupe de com, les gens qui disaient non, malheureusement, plus que oui.
En Caroline, c'est pas un gros problème. Là. Puis, tu sais, en Arizona, avant qu'ils déménagent, ça devait pas être un gros problème. Mais Montréal, c'est complètement une autre bibitte, là, tu sais.
Carrément. Et je me souviens, dans plusieurs rencontres qu'on avait avec les gens de relations de presse des autres équipes, pour essayer d'ajuster
des façons de faire.
Des façons de faire, des best practices. Ouais. C'est bien certain que la personne en Caroline, la personne en Arizona, qui n'a pas de télé, qui n'a pas de radio, puis qui a deux journalistes,
c'est
un problème pour lui. Là. Mais écoutez, ça faisait partie de la réalité. C'est encore cette réalité-là, et c'est pour ça que les clubs canadiens, dont le club de hockey canadien, ont beaucoup de couverture. Je dis les clubs canadiens parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Ouest canadien, Toronto, Vancouver, Ottawa, ce sont des gros marchés aussi.
Tout à fait. Hey, écoute, là, tu viens de te lancer en affaires, tu offres des services, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment s'adresser aux médias, passer le bon message. Je serais intéressé à ce que tu me parles de ta nouvelle compagnie. Est-ce que tu me permets de faire une petite pause puis de poursuivre avec ta nouvelle compagnie?
Absolument.
Génial. On fait une petite pause. On est avec l'ancien directeur des communications du Canadien de Montréal, Dominique Saillant. Oui, savoir parler en public, c'est pas donné à tous. Et là, je m'adresse à un peu tout le monde. Là. Peut-être des athlètes qui se retrouvent au niveau junior ou au niveau universitaire ou même des dirigeants d'entreprise hein, qui ont à passer des messages. Les communications, c'est un art. Et je suis avec Dominique Saillant qui a passé pratiquement 35 ans de sa vie, de sa carrière au niveau du hockey professionnel. Et là, Dominique, tu offres désormais tes services justement pour des athlètes ou des dirigeants d'entreprise pour les coacher, pour qu'ils aient le bon message. C'est bien ça?
Oui, effectivement. En fait, ça fait longtemps que j'ai le projet en tête. Au fil de mes 30 années de carrière, on se rend compte que, bon, tu l'as dit tantôt, Jean-Philippe, un athlète, c'est là pour évidemment être discipliné, s'entraîner, se préparer, jouer, performer et évidemment gagner. Les relations de presse, les entrevues, c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde. C'est certain qu'au fil de ma carrière, j'ai croisé des athlètes qui étaient très à l'aise avec l'entrevue, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Alors, j'ai décidé de moi-même créer, c'est mon nom, le fait saillant, évidemment, je trouve que ça tombe bien, grâce à un ami de longue date, Sylvain Guimont, qui m'a trouvé le nom de domaine, le fait saillant, c'est mon nom de famille, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Au niveau de la préparation à l'entrevue, des messages clés, de la formation média, des jeunes athlètes, pas nécessairement dans le hockey, l'avènement de la télévision joue un rôle beaucoup dans la façon de s'exprimer maintenant. La télévision continue et partout. Les réseaux sociaux, je m'en allais là aussi. Alors effectivement, je dois t'avouer que les jeunes sont beaucoup plus alertes avec cette réalité-là, sauf qu'une réputation peut être détruite assez rapidement. Et on a plein d'exemples qu'on nommera pas en ondes, toi et moi aussi aujourd'hui, mais la préparation est importante et effectivement, j'ai décidé de créer lefaitsaillant.com où je donne des formations à des jeunes, gestion de crise, relations de presse, effectivement, conseils, de l'aide au niveau de l'entrevue, que ce soit des entrevues à la télé avec les médias ou que ce soit des entrevues avec des équipes. J'en ai fait dans le passé aussi, il y a plusieurs jeunes qui font des entrevues avec des équipes en vue du repêchage.
Ah oui, c'est vrai, ben oui.
Absolument. Il y a deux formes d'entrevues. Il y a les entrevues médias, mais il ne faut pas oublier que les jeunes aussi, quand c'est le temps du repêchage, bien évidemment, ils passent devant un conseil de gens d'opération hockey. Il y a une préparation adéquate qui doit être faite là-dessus. Alors oui, c'est vraiment un beau projet que j'ai commencé et j'essaie de faire mon bout de chemin là-dedans. Et ça tombe que mon nom de famille est saillant, puis le fait saillant, bien, c'est ce que j'essaie.
C'est vendeur, donc, c'est vendeur.
Je pense que c'est vendeur.
Ben oui.
Je suis content que le site web était disponible.
D'ailleurs, s'il y a des clubs juniors, là, je ne sais pas moi, les Voltigeurs de Drummondville ou les Cataractes de Shawinigan, ou peu importe l'organisation qui voulait faire appel à tes services, on peut te rejoindre comment, Dom?
Carrément sur lefaitsaillant.com. Mes coordonnées sont là. Et puis, ça me ferait plaisir d'aider. Je travaille d'ailleurs avec le Phoenix de Sherbrooke depuis plusieurs années.
Ah oui, hein?
Oui, absolument. Les Voltigeurs de Drummondville, ça a juste moins bien tombé l'an passé en termes d'horaire. Mais effectivement, ce sont des équipes que j'approche. Et puis, je ne me gêne pas de rejoindre toutes les autres équipes de la Ligue ou même d'autres athlètes individuels. Écoute, Jean-Philippe, je regardais le repêchage de la Ligue nationale cette année. Un Justin Carbonneau, un Caleb Desnoyers. Un Matthew Schaeffer, qu'on a tous vu, premier show au total, les Islanders, la façon dont ce jeune-là s'exprime en ondes, en entrevue, c'est du bonbon. Et puis, c'est important pour qu'un jeune joueur, un jeune athlète sache, je veux dire se vendre, mais dans le fond, c'est trouve un petit peu la façon de se démarquer en entrevue et pas juste sur la glace. Et pour moi, ces jeunes-là m'ont impressionné, alors c'est ce que j'essaie d'inculquer en ma nouvelle business, si on veut.
Et parmi les... Tu sais, quand tu travailles avec des... tu parles du Phoenix de Sherbrooke. Quand tu travailles avec des jeunes juniors, là, tu sais, qui n'ont pas encore l'expérience des professionnels, quel est le premier conseil que tu leur donnes?
En fait, c'est important ce que tu mentionnes parce que c'est pas toujours facile de s'adresser à un groupe d'une vingtaine de personnes. Ce sont des jeunes athlètes. Après un entraînement, des fois, les jeunes sont fatigués. Fait que tu essaies de les chercher avec des choses pas trop compliquées. C'est de garder ça simple. Et là où je m'en vais, c'est que des fois, je joue beaucoup sur certains messages clés et ma préparation, mon focus, c'est beaucoup sur, j'appelle ça les 4 P dans le fond, là, c'est la préparation, la présentation, la perception et les performances. Fait que je joue beaucoup là-dessus, je leur mets des mots un petit peu, je fais des exemples des mock interviews, si je m'excuse du terme anglais.
Des simulations, hein?
Des simulations pour leur... Et évidemment, avec un PowerPoint, on présente un paquet de vidéos aussi, là. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. Fait qu'on joue beaucoup, c'est très créatif. J'essaie de les faire interagir le plus possible aussi. Mais il faut garder ça simple. Et le but dans tout ça, c'est que le jeune se trouve un élément à lui, une couleur, un moment, une personne, quelque chose qui fait en sorte qu'il va se démarquer par rapport aux autres. c'est un peu là-dessus que je joue lors de mes présentations.
Ça, je suppose qu'à ton époque, Piquet-Souban n'avait pas de misère avec ce volet-là.
Non, pas du tout. Et je le regarde à l'occasion à la télé. Il n'y a toujours pas de misère avec cet aspect-là non plus.
Écoute, oui, pour avoir de la saveur, il a notre ami Piquet. Y a-tu un joueur qui t'a marqué par ses qualités de communicateur au fil des années que tu aurais peut-être côtoyé chez le Canadien ou ailleurs?
Il y en a eu plusieurs. Les Gallagher de ce monde ont leur façon de faire les choses. Je veux dire, les joueurs francophones, les joueurs québécois qui sont passés à Montréal, les Francis Bouillon de ce monde, c'est des joueurs qui avaient quand même une facilité à le faire, même si des fois ça pouvait devenir lourd. Mais un que je te dirais qui m'a particulièrement impressionné, et pas nécessairement parce qu'il a joué à Montréal, il n'a pas joué longtemps, c'est Mathieu Darche. J'écoutais les entrevues que Mathieu a faites suite au repêchage de cette année. Là. Transparence, honnêteté, fluidité, sourire, agréable à côtoyer. Alors, tu vois que Mathieu a appris beaucoup et c'est le genre d'individu qui passe très bien aussi en entrevue.
Absolument. Puis, je suis curieux de t'entendre sur Martin Saint-Louis. Tu sais, écoute, on l'entend avec ces expressions-là, jouer la game dans la game. Puis, tu sais, il y a toutes ces analogies. Est-ce que le gars de communication s'amuse à entendre notre coach du Canadien?
Absolument, et je trouve ça brillant. Et pour revenir encore au concept, c'est que Martin, je pense, a trouvé une façon, avec toute son équipe de communication, on s'entend que Chantal et son groupe ont quelque chose à voir là-dedans. Martin a trouvé une façon de se démarquer à lui-même, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis ça, ben pour moi, je pense que c'est une qualité, parce que Jean-Philippe, ces entraîneurs-là, ils sont très présents. Ils sont devant le Kodak, devant la télé tout le temps. C'est sûr que ça peut devenir un peu lourd pour la population, sauf que l'équipe gagne. Martin trouve une façon d'être sympathique en onde, et ça va lui rester tout le temps. Même chose pour Kent Hughes. Un homme que, ça, moi je me trompe, c'est l'anglais, sa première langue, qui fait un travail exceptionnel en français.
Absolument.
Ce sont des qualités et des caractéristiques importantes, et à développer, c'est vraiment important pour ces jeunes-là et pour ces gens-là, et bravo à l'organisation pour ça.
Écoute, c'est pas des farces. Tu sais, quand tu dis que le coach du Canadien a plus de temps d'antenne que le premier ministre du Canada, ça... T'sais, ça te montre comment ta job est importante, là, tu sais.
Tu as raison. Et c'est comme ça que les réglementations de la Ligue sont faites. Il faut vivre avec cette réalité-là. Je l'ai fait pendant une trentaine d'années et puis je suis fier d'être rendu où je suis aujourd'hui. Puis tant mieux si les gens de hockey, évidemment, trouvent une façon de bien se positionner devant les médias, parce que c'est important, particulièrement dans un marché comme Montréal.
Absolument. Ben Dominique Saillant, je te félicite pour ce beau parcours de plus de 30 ans. Et j'invite encore une fois les gens, ou même les clubs juniors, les athlètes, peut-être même des athlètes olympiques, des entreprises qui veulent se prémunir de bons conseils en communication, lefaissaillant.com. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Un gros merci, Dominique.
Merci, Jean-Philippe, pour l'invitation. Un bon été à toi et à tous vos auditeurs.
Absolument. À très bientôt. Bye-bye.
À bientôt.
Alors voilà, Dominique Saillant qui a occupé un rôle très, très, très important au sein du club de hockey canadien. Et j'ai goût de vous lancer, avant d'aller à la pause, sur la question suivante. OK? Donc, on a vu du monde en onde, là, des athlètes en onde. Là. Qui est celui que vous avez le plus aimé jaser devant les médias? Piqué, c'était quelque chose.
Ouais.
Piqué, c'était quelque chose. Moi, Martin Saint-Louis, là, je vous le dis, là, je suis en amour avec le personnage. Ses images, ses allégories, il est bon. D'un point de vue là, médiatique, Martin Saint-Louis là, est un des meilleurs entraîneurs que j'ai connus à Montréal. Tu sais, Jacques Martin, j'aime beaucoup Jacques, là, mais tu sais, c'était pas le gars le plus excitant. Là. Pierre Gauthier, c'était pas excitant ben. Bob Gainé, c'était pas excitant ben. Alors, je vous pose la question au retour de la pause. 514-790-0919. Qui est le gars que vous aimez le plus entendre en entrevue? J'ai bien du Luc Robitaille, sa messagerie texte. C'est vrai qu'il était drôle, hein, s'il vous plaît, Luc. On prend une pause, on revient avec une coupe d'appel.